Ce serait pas la rentrée là, dites-moi.
Mais si, 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 si tout à fait, on est revenu.
Il y a bonjour du monde. Bonjour, comment allez-vous?
ça va, bah, en grande forme pour cette rentrée. Donc bah, c'est Chloé aujourd'hui qui va animer l'émission avec notre invité Éric Després. Et puis moi je ferai la news info. Donc je laisse la parole à Chloé.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre émission Paroles d'animaux, l'émission qui explore le monde vivant d'hier et d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire un bond dans le temps plusieurs millions d'années en arrière pour parler de mondes disparus, de forêts englouties et d'animaux fossilisés. Pour ce voyage dans le passé, on vous reçoit donc Éric Després. Vous êtes paléontologue amateur autodidacte passionné, collectionneur depuis plus de 50 ans et vous avez contribué à de nombreuses découvertes majeures dans le domaine. Donc bonjour Éric.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous dire simplement, Éric, qu'est-ce que la paléontologie?
Alors, c'est l'histoire de la vie du passé, en fait. Hein. On va étudier les animaux qui sont disparus il y a des millions d'années et leur mode de vie, les identifier et de pouvoir après les classer dans le temps.
C'est extraordinaire de retrouver des fossiles hein, qui datent de millions et des millions d'années.
Tout
quand même.
Fait,
hein.
C'est,
on n'a pas conscience hein, de,
non,
du temps qui
passe. On a du mal à s'imaginer.
Ouais.
Et comment cette passion elle est née chez vous?
Ça a commencé il y a très très longtemps, hein. J'avais 9 ans hein, quand j'ai commencé à chercher des fossiles, c'était dans le potager familial à Aigrefeuille de Nice où j'ai trouvé mes premiers petits escargots fossilisés, petits brachiopodes, hein, des petits bivalves que j'ai commencé à collectionner.
Ah bah il faut un début à tout, hein. Est-ce que votre famille vous a accompagné dans cette passion hein?
Oui oui tout à fait, donc j'ai commencé à chercher donc, à l'âge de 9 ans et avec le temps bah, je prenais mon vélo, j'allais chercher des fossiles dans les carrières environnantes, hein, Ardillières par exemple, des carrières qui sont aujourd'hui complètement comblées, et aussi mes premiers fossiles que j'ai commencé à trouver avec des grandes expéditions avec mon vélo à l'âge de 12 ans, hein, 12-13 ans, où je prenais mon sac à dos, mon casse-croûte et je partais sur le bord du littoral à la Pointe du Chêne ou au Rocher d'Yves, et c'est là que j'ai commencé à trouver mes premières ammonites. Et bien sûr, un jour, je n'ai pas pu ramener les fossiles sur mon vélo. Donc, c'est mon père qui est venu les chercher sur le bord de la route parce que je ne pouvais plus avancer avec mon vélo. Et donc, il a commencé à se prendre au jeu. Et pour moi, c'était des yeux supplémentaires, des bras supplémentaires et surtout un permis de conduire pour m'emmener partout.
Bien pratique.
Donc, c'était très pratique.
Vous avez un parcours un peu atypique parce que vous n'êtes pas du tout formé dans le domaine de la paléontologie.
Non, je ne suis pas du tout formé dans le domaine de la paléontologie. Moi, je suis un autodidacte. Hein, donc, moi, j'ai un CAP, un BEP de menuisier que je n'ai jamais pratiqué. Et donc, moi, c'était toujours la recherche. Hein, donc, oui, un parcours complètement atypique. Et j'ai fait mes premiers débuts à l'INRAE, l'Institut National de la Recherche Agronomique. J'étais responsable de la collection nationale de semences de grande culture. Avec le temps, bien sûr, j'ai passé près de 42 ans responsable de cette collection nationale. Et aujourd'hui, je suis à la retraite.
Et qu'est-ce qui vous fascine tant du coup dans la recherche de ces traces du passé?
Eh bien, c'est la recherche de notre passé, comment c'était il y a des millions d'années, d'où on vient, où on va. Hein, aujourd'hui, on parle de réchauffement climatique, on parle de plein de choses. Et le sujet, il faut regarder ce qui s'est passé dans le passé pour comprendre le présent et le futur. Et donc, c'est toujours très intéressant de regarder ce qui s'est passé il y a des millions d'années et de voir toutes ces extinctions, des extinctions de masse qu'il y a eu. Il y a eu 5 extinctions de masse. Ici, aujourd'hui, on est dans la 6e extinction de masse. Et donc, c'est très intéressant de pouvoir comprendre comment s'est passée l'histoire de la vie avec ces millions d'années.
Ouais, on n'a pas conscience de tout ça.
C'est vrai,
finalement.
Et puis ça permet, d'un côté positif, de connaître l'évolution aussi des espèces. Mmh. Pourquoi peut-être elles ont disparu et puis d'autres les ont remplacées,
voilà,
etc. Donc, ça, c'est le côté positif, on va dire, pour relever un petit peu l'extinction.
Merci beaucoup, Éric, pour cette initiation dans le domaine. On marque une pause de pub et on revient tout à l'heure.
Chez Atoll Rochefort, offrez-vous du style et de la qualité. Profitez dès maintenant de moins 50% sur la deuxième paire de marques. Faites-vous plaisir et sans vous priver. Rendez-vous vite chez Atoll, galerie marchande Intermarché à Rochefort.
Atoll, bien voir, bien être.
Pour choisir sa cuisine, c'est jamais facile. Le budget, les tiroirs coulissants ou ouvrants. Ou la pose soi-même, ou pas.
Avec Medil côté cuisine, tout est clair. Même si vous n'êtes pas plan, devis, fabrication, pose de votre cuisine, À vous de choisir. Des cuisines 100% françaises, du standard au sur-mesure, de la conception à la réalisation, et c'est pas plus cher qu'ailleurs. Comparez dès maintenant. Livraison dans toute la France. Médil côté cuisine, zone artisanale La Jarrie, face à la ressourcerie derrière McDo, à Dolus-d'Oléron. Médil côté cuisine, entre nous, la confiance, c'est tendance.
Chaque jour, Marie pense à sa maman Françoise, 84 ans, qui lui assure être en pleine forme et dit ne pas avoir besoin d'aide. Pourtant, Marie sait bien que Françoise se sent seule et que les semaines sont parfois longues. Marie fait alors appel à Petit-Fils. Et depuis, sa maman se réjouit tous les jours de se promener au bras de son auxiliaire de vie.
Petit-Fils accompagne en douceur les grands-parents dans leur quotidien. Petit-Fils, l'aide à domicile sur mesure pour les personnes âgées. Petit-fils.com.
Votre agence de Rochefort, 14 rue Cochon du Vivier.
Vous aimez danser, vous amuser. Le rétro du complexe Sainte Vegas à Sainte vous propose les meilleurs orchestres de la région Aquitaine avec des musiciens exceptionnels.
Dimanche 7 septembre, le rétro du Sainte Vegas accueille l'orchestre de Fabrice Charpentier. Midi déjeuner couscous, 14h bal.
Le rétro du complexe Sainte Vegas à Sainte, une ambiance garantie.
Nouveau à Saint-Brie-des-Bois, Crazy Studio. Coiffure, esthétique, détente et onglerie. Un lieu unique dédié à votre bien-être. Côté coiffure, nouveauté, le Botox capillaire. Côté esthétique, le Head Spa et les modelages, mais également les soins anti-âge avec le lifting sans chirurgie. Entrez dans une nouvelle dimension beauté grâce à Christelle Borin et son équipe. Crazy Studio, 4 rue de l'Aubrée à Saint-Brie-des-Bois et sur les réseaux sociaux. Prise de rendez-vous sur Dilentab. Parking gratuit et accessible.
Cet été, le château de Bonnemie accueille l'œuvre de Daniel Bergagna. Jusqu'au 7 septembre, découvrez l'univers fascinant du peintre surréaliste installé sur l'île depuis plus de 40 ans. Huile, aquarelle et dessin autour d'un thème intriguant, la musique impossible. Une exposition gratuite et accessible à tous, du mardi au samedi, au cœur de Saint-Pierre-d'Oléron. Laissez-vous porter par ces toiles oniriques entre réel et imaginaire. Daniel Bergagna, un rendez-vous artistique à ne pas manquer. Une exposition proposée par le service culturel de la mairie de Saint-Pierre-d'Oléron.
Tous les vendredis et samedi soir dès 22h, replongez au cœur des années funk, disco et dance music. Dance Vintage, c'est le meilleur des années 80, 90 et 2000. Des collectors,
des versions maxi
et des remixes. Chaque vendredi et samedi soir, plongez au cœur des meilleurs souvenirs.
Dance music.
Dance Vintage, sur Demoiselle, les vendredis et samedis dès 22h.
Tous les samedis à 12h35, retrouvez Olivier Marvaux pour les chroniques du patrimoine sur Demoiselle avec l'âtre royanné Jotul Vaux-sur-Mer, spécialiste des poêles et cheminées scandinaves. Un voyage à travers le patrimoine de Charente-Maritime, ses secrets, ses anecdotes et son histoire. Tous les samedis à 12h35 sur Demoiselle.
Demoiselle, à Port-des-Barques, sur 97.8.
Allez, paroles d'animaux, la suite.
De retour dans Paroles d'animaux, on continue notre conversation avec Eric, paléontologue amateur. Alors Eric, est-ce que vous pouvez nous parler de cette forêt qui a existé ici chez nous et qui a été engloutie ?
Oui, alors c'est vers 1817-1820, deux grands naturalistes français et charentais bien sûr ont trouvé les restes d'une forêt engloutie qui sont Floriot de Bellevue et Alcide d'Orbigny. Hein. Ils ont trouvé les restes d'une forêt engloutie dans l'île d'Aix. Hein, et donc ils ont commencé par trouver des restes de bois fossiles, de troncs d'arbres lors de la conception du port de la petite île d'Aix. Et donc ils ont commencé à trouver des troncs d'arbres qui datent à peu près de 100 millions d'années, et cette forêt est tombée dans l'oubli pendant presque 200 ans.
Ouais, c'est fou.
180 ans plutôt. Et c'est dans les années 2000, un chercheur un professeur Didier Néraudot de l'université de Rennes s'est remis à chercher cette forêt fossile. Et donc on a fini par trouver donc les troncs fossiles, bien sûr, mais tout ce qui va autour. C'est-à-dire dans les carrières environnantes sur le continent, hein, on va dire toute la région Rochefortaise, tout ça, dans les carrières de sable un peu partout, les carrières de pierre, on a fini par trouver ces troncs, mais en même temps des feuilles fossiles, des résines fossiles, des branches et bien sûr les insectes et les dinosaures qui vivaient dans cette forêt.
C'est extraordinaire.
Donc ça a été vraiment extraordinaire et on s'est lancé à la recherche de cette forêt.
Et vous avez participé justement à cette recherche ?
Oui. On était une petite équipe de 7-8 personnes et on s'est mis à la recherche de cette forêt. On a trouvé vraiment des choses extraordinaires.
Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu du processus scientifique du coup pour retracer tout l'écosystème à partir de vos découvertes ?
Alors, tous les insectes, par exemple, qui ont été trouvés dans les résines fossiles sont classifiés par des systématiciens, bien sûr. On retrace tout leur paléo-environnement et derrière tout ça s'articule tout un monde scientifique pour retracer tout cela, quoi. Donc, la petite histoire, par exemple, pour les insectes, par exemple. On trouve ces résines fossiles. Ces résines fossiles qui ont 100 millions d'années, on a à peu près 80% de cette résine fossile qu'on appelle de l'ambre, bien sûr, qui est opaque, et seulement 20% translucide. Et malheureusement, la nature joue avec nos sens, et donc c'est pas dans l'ambre translucide qu'on va trouver les insectes ou les restes d'animaux ou de végétaux, ça va être plutôt dans les ambres sales, opaques, dites de litière, c'est-à-dire que les insectes venaient boulotter des restes de plantes, d'autres insectes, et se faisaient engloutir par d'autres morceaux de résine, et si bien qu'il faut aller les chercher. Donc au départ, on avait un système qui consistait à tout casser en petits morceaux pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur, et ce qui nous permettait, avec une lumière blanche très très puissante et un microscope ou un gros binoculaire, de voir ce qu'il y avait à l'intérieur.
D'accord.
Et donc, cette technique étant... Ainsi, on a trouvé des nouvelles espèces, des nouveaux genres, des nouvelles familles de raphidioptères, de coléoptères, diptères.
Incroyable.
Odonates ou des libellules. Mais cette technique étant très destructrice, on a fait appel à la haute technologie au service de la paléontologie. On a fait appel au synchrotron, l'accélérateur à particules de Grenoble. Ce grand anneau de 844 mètres de circonférence, dont la technique consiste à envoyer un rayon X 10 000 milliards supérieur à une radiographie normale.
C'est incroyable.
Ce rayon X va aller sonder la matière et à l'aide d'un microscope électronique et d'un microtomographe et d'un scintillateur qui va convertir la lumière du rayon X, va nous permettre de voir sur un écran d'ordinateur les insectes ou les plantes qui sont restés dans leur sarcophage de résine.
Incroyable. Ouais, surtout sur des petites choses, quoi.
Oui. Bah oui, en fait, on trouve... Ouais. Il y avait des gros insectes, mais on trouve surtout des petits, parce que les gros, ils arrivaient à s'extirper de cette partie collante qui était la résine. Donc, on va trouver une grosse patte, une grosse aile, mais tous les petits insectes faisaient vraiment gluer, et on les retrouve entiers avec des structures vraiment parfaites.
Et vous avez trouvé combien de nouvelles espèces ?
Oh, plusieurs, j'ai pas en tête, mais plusieurs dizaines.
Waouh.
C'est bon.
Et quelle est la découverte dont vous êtes le plus fier ?
La découverte la plus importante, ça a été la découverte de la première plume de dinosaure trouvée en France, dans la région, bien sûr, en Charente-Maritime. Là, c'était vraiment impressionnant.
C'est vous le premier ?
Oui.
La première personne qui a découvert une plume.
La première plume de dinosaure en France, oui.
C'est vous, monsieur. Ouais, oui. Bravo. Ouais. Félicitations.
Et aussi les premiers capsules de requins en France et les seuls à ce jour.
Ah ouais. Ah, bravo. Hein. Non, mais chapeau bas. Hein. Ah ouais, très bien.
Et vous avez découvert aussi une nouvelle espèce de libellule qui porte votre nom, si je ne me trompe pas.
Oui, c'est ça. Oui, j'ai eu l'occasion de trouver une nouvelle famille de libellules, ce qui est assez rare. Et donc, c'est des scientifiques, André Nel, du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, qui a trouvé que c'était une nouvelle espèce. Et on arrive à déterminer les nouvelles espèces grâce à leurs ailes. Et comme ils pensaient avoir fait le tour de toutes les nouvelles espèces, de toutes ces espèces au niveau de fossiles, eh bien, ils l'ont appelé Enigmatea.
D'accord.
Desprez, énigme, l'énigme. Ouais. Et Desprez, qui veut dire I2 Desprez, en fait.
C'est fou de votre nom à l'espèce en latin, puisque c'était en latin.
Et une belle découverte aussi, ça a été la découverte des plus vieux des lauracées au monde, c'est-à-dire l'ancêtre du laurier sauce, laurier fleur, camphrier, cannelier, avocatier, qui s'appelle Eucalyptolerus Desprez, qui a aussi 100 millions d'années, qui a été trouvé en Charente-Maritime, qui est l'ancêtre de 2500 espèces, 50 genres.
Waouh. Donc toutes vos découvertes, elles correspondent à environ 100 millions d'années, c'est ça?
Oui, oui, oui. Okay. De cette fameuse forêt qui a été engloutie par la mer.
Et c'est vraiment la période, vous, qui vous intéresse?
Disons que souvent, quand on se promène dans la nature, dans notre département, c'est souvent un monde marin que l'on trouve. On va trouver des ammonites, des oursins. Mais on a une petite fenêtre... une petite fenêtre quand même de 35 millions d'années, où on a eu cette forêt, et on la retrouve que à quelques endroits, mais des tout petits fragments. Et c'est vrai que c'est passionnant, parce qu'on peut trouver plein de choses, mais il faut pouvoir arriver à la trouver.
Ouais, il faut savoir bien chercher.
Voilà, il faut chercher.
Toutes vos découvertes, vous les exposez dans des musées, vous ne les gardez pas forcément dans votre collection, comment ça se passe?
Alors oui, tout ce qui est holotype, les pièces exceptionnelles dont ça a un intérêt scientifique majeur pour la nation, sont déposées dans des musées nationaux ou départementaux. Donc par exemple, la plume de dinosaure, vous pouvez l'avoir au Muséum d'Histoire Naturelle de La Rochelle, ainsi que les capsules de requins aussi.
C'est à La Rochelle?
Muséum d'Histoire Naturelle de La Rochelle.
Oui. D'accord, très bien. C'est bon à savoir, j'irai voir. D'accord.
Et alors j'ai beaucoup de fossiles de déposer dans les musées en France. J'en ai au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. J'en ai au musée d'Angoulême, au musée vert au Mans. Et après, j'en ai aussi à l'étranger, au musée de Berlin. J'en ai au British Museum. Aussi.
Ah oui, elle voyage.
À Reykjavik en Islande. Et puis bien sûr, Washington, Tokyo, Kyoto, Yellowstone, un petit peu partout.
Vous
il y a à peu près 2000 fossiles. Et les universités aussi, où j'ai déposé beaucoup de fossiles, qui sont en cours d'études aussi.
D'accord.
Voilà. Mais les holotypes, les pièces primordiales sont déposées dans des musées nationaux français.
C'est obligatoire,
oui. C'est pas obligatoire, mais c'est ma devise, quoi.
Ok. Est-ce que vous faites des animations dans les musées, ça vous arrive?
Alors, je donne quelques conférences sur l'origine des plantes à fleurs, l'insondable mystère de l'origine des plantes à fleurs, parce que aujourd'hui on va sur Mars, mais on ne connaît toujours pas comment sont apparues les premières plantes à fleurs sur Terre.
C'est vrai.
Donc voilà, c'est des exemples comme ça, ou le dégagement des fossiles de la science à l'art, parce que l'art est typique d'une œuvre des hommes, mais aussi la nature fait sa propre art. Mmh. Et donc, je fais un rapprochement entre le dégagement des fossiles, de la science à l'art, ce qui permet de comprendre aussi pas mal de choses sur la nature.
C'est passionnant ce que vous faites. Vraiment, ça doit vous passionner à un point. C'est pour ça qu'encore aujourd'hui, vous faites, vous faites des recherches.
Ah oui, toujours.
Et je pense que vous continuerez encore longtemps, à mon avis.
On va essayer.
Vous avez écrit des livres en collaboration avec des confrères, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu?
Oui, alors on a écrit deux livres avec deux collègues indispensables qui sont Pierre Miramant, ancien professeur de l'Université de La Rochelle, et Thierry Bouillet, ancien géomètre. Et donc, tous les trois, on s'est lancé à la première écriture d'un livre Paléontologie en Onis sur les traces d'Alcide d'Orbigny, qui a été publié en 2021 et qui a eu d'ailleurs le prix de l'île de Ré de l'Académie de Saint-Onge. Et il a très très bien marché comme ouvrage. Et dans la foulée, on a fait un deuxième ouvrage qui a été publié en 2024, Trésor paléontologique en Onis, à la recherche de la forêt engloutie. Donc là, c'est un titre qui est très accrocheur, et là, le livre cartonne actuellement. Là, on a il y a Thierry Bouillet qui a fait des photos absolument exceptionnelles sur les pièces de la collection, et puis aussi des photos fournies par les collègues de l'Université de Rennes du CNRS, Vincent Perrichot, Jean-David Moreau et Didier Néraudeau nous ont fourni des photos absolument magnifiques, et ça nous a permis de faire ce très bel ouvrage qui permet aux Charentais-Maritimes de voir comment était notre région il y a 100 millions d'années, avec des insectes absolument magnifiques. On voit leurs ailes dans les détails, on voit les facettes sur les yeux. C'est vraiment impressionnant, et ils ont 100 millions d'années.
Et c'est important de s'intéresser à notre territoire. C'est vrai qu'on vit sur une terre finalement où il y a plein de trésors, de fossiles et puis de restes d'animaux qui datent de plus de 100 millions d'années, etc.
Peut-être qu'après cette émission, tout le monde regardera les cailloux, peut-être pas.
Il y a des chances.
On espère bien.
Vous avez évoqué l'Académie de Saint-Onge. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu?
Alors oui, l'Académie de Saint-Onge, donc, j'ai été élu en 2024. Hein, donc c'est une élection par cooptation. Donc on ne pose pas sa candidature. Et j'ai appris en 2024 que j'avais été élu au 14e siège de l'Académie de Saint-Onge à remplacer M. Marc Farté, qui était directeur de la marine de Rochefort.
Et c'est quoi l'objectif de cette académie ?
L'académie, c'est le but de promouvoir des gens qui œuvrent pour la région, hein, pour le département, hein, et donc de les mettre en avant par le biais d'un palmarès avec des prix. Et donc ça peut être, ça touche aussi bien à l'art, à la science. Que
plusieurs domaines, quoi. Il y a d'accord. plusieurs domaines. Donc voilà, vous, ce sera la paléontologie.
Ah, pas spécialement. On propose des candidats et après, c'est les 25 académiciens qui vont statuer sur les personnes qu'on présente.
D'accord. Et cette présentation, elle est ouverte au public ?
Oui. Enfin, la présentation, enfin, le palmarès a lieu souvent autour du 5 octobre à Royan. Salle Jean Gabin, hein, la prochaine va être le 5 octobre. Et donc, voilà, et tout le monde est convié à venir voir cette remise des prix qui met en avant ces personnes qui ont œuvré pour la région.
D'accord, c'est vraiment, donc c'est ouvert au public
Oui.
Hein, d'accord, une donc on peut y aller, nous, par exemple, on peut venir aussi
Le 5 octobre.
D'accord. Okay.
Salle Jean Gabin, à Royan.
Merci. Donc pour revenir sur toutes vos découvertes, vous avez une collection du coup de chez vous, à votre domicile. Est-ce qu'on peut la visiter ou pas du tout ?
Alors oui, il y a une collection qui est à peu près de 12 000 pièces, donc c'est assez important. Mais c'est une collection qui est surtout adaptée pour le monde scientifique.
D'accord.
Hein, c'est quelque chose qui est très particulier, une collection particulière ou beaucoup plus adaptée au monde scientifique. Elle n'est pas adaptée pour des visites de personnes.
Ouais. C'est pas un
tout
musée.
Tout simplement,
quoi.
Si pour moi j'ai un manque de moyens pour pouvoir faire un musée personnel, quoi. Mais par contre, cette collection sert pour faire évoluer cette science-là au niveau de notre région et de la France, quoi.
Ok. Ben merci beaucoup Eric, on fait une pause, on revient après les informations et le flash info de Rachel.
Merci.
A tout de suite sur Demoiselle, merci de nous écouter sur le site internet demoisellefm.com mais également via les applications en smartphone et tablette, c'est l'info d'ici.
Chez Optique 2000, on voit bien que vos lunettes ont la vie dure. Glissez en vitesse dans votre sac à main, nettoyez avec votre pull qui gratte un peu trop et parfois vos lunettes sont posées au mauvais endroit au mauvais moment. Alors avec le service entretien et réparation, nos opticiens prennent soin de vos lunettes pour qu'elles durent plus longtemps. Optique 2000, on va se revoir. Voir conditions et tarifs en magasin, dispositif médical, demandez conseil à votre opticien.
Votre opticien Optique 2000, deux adresses à Rochefort, 64 rue de la République et centre commercial Leclerc.
Toute l'information locale et départementale sur Demoiselle FM.
L'info d'ici, le flash, Emmanuel Bidot.
Bonjour à tous. Risque maximal encore pour les buy-in. Tout ce week-end, ça concerne en particulier les plages de Grand Village, Saint-Georges-d'Oléron, Saint-Trojan, La Tremblade et les Mattes. Les baigneurs sont invités à la plus grande prudence. C'est officiel, la commune de Broyer en Pays Royanais aura sa gendarmerie. Le député Horizon de Royan-Marraine-Oléron, Christophe Plassard, a reçu un courrier du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, annonçant que Broyer a été sélectionné pour accueillir une brigade, une nouvelle gendarmerie, dans le cadre du programme national des 239 nouvelles brigades lancées par le président de la République Emmanuel Macron. On savait déjà que Broyer était favori, mais cette officialisation est une excellente nouvelle pour Christophe Plassard. À La Rochelle, après les nuisances olfactives répétées et signalées par les riverains de l'ex-site Enedis, le préfet Brice Blondel a pris une mise en demeure à l'encontre de la société Speed Rehab, responsable des travaux. L'entreprise doit dans les 5 jours sécuriser et clôturer le site, mettre en place un système de couverture pour réduire les odeurs, former son personnel à mieux gérer les nuisances et garantir un suivi de la qualité de l'air pour les riverains. Une consultation publique sera également lancée pour renforcer les mesures de sécurité et de surveillance de la qualité de l'air sur le chantier. Les écoles Louis Pergaud inaugurées hier midi à midi. Le projet date de 2001. Il a fallu attendre 3 mandats de maire pour assister à l'inauguration de l'école élémentaire et primaire Louis Pergaud, baptisée climatiser les écoles. Louis Pergault, l'inauguration s'est faite en grande pompe devant de nombreux élus de la communauté d'agglomération Royan-Atlantique, la présidente du département, le sous-préfet de Saintes et deux parlementaires. Reportage tout à l'heure. À Chaniers, la nouvelle école inaugurée ce week-end, et c'est un peu l'école du futur pour le DAZEN, directeur académique des services de l'éducation nationale, m'a dit amen. Il s'agit du groupe scolaire Pierre de Ronsard qui regroupera en fait trois écoles, Pasteur, Ronsard maternel et Ronsard élémentaire, qui fusionnent avec une seule direction. Le déménagement sera toutefois progressif jusqu'à la rentrée 2026. Il s'agit de créer un groupe scolaire conséquent et de préserver les moyens techniques et humains. Une grande école de territoire dont se félicite le DAZEN. Le député RN de Royan-Est, Jean-Jacques Pascal Marcoski, et l'eurodéputé Séverine Verbrouck ont saisi la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, à propos des quotas de pêche à la civelle. Ils ont été baissés de 60 à 26 tonnes après une proposition de la Direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture. Ils lui demandent qu'elle revienne sur cette proposition et rétablisse un quota de 60 tonnes. La Charente-Maritime compte environ 220 armements, dont 105 qui sont directement tributaires de la pêcherie de la civelle. Nous en appelons solennellement au gouvernement. Il doit cesser de sacrifier nos pêcheurs artisans, écrivent-ils. On passe maintenant aux nouvelles du ciel.
Demoiselle, la météo.
Écoutez, ça va être rapide, hein. Coup d'œil vers le ciel pour aujourd'hui. C'est très ensoleillé en Charente-Maritime, sur l'ensemble de la France. D'ailleurs, on aura pas mal de soleil. Des températures actuellement aux alentours des 23-24 degrés. Cet après-midi, comptez jusqu'à 29 voire 30 degrés. Quelques petits passages nuageux demain dimanche, mais sans pluie. Les températures aux alentours des 25 degrés pour les maximales. Ça va commencer à se gâter malheureusement à partir de lundi, voire mardi.
L'élégance, c'est d'abord une question d'harmonie. Alors pour mes fenêtres, mes stores et mes volets, j'ai choisi Storiste de France. Comme tout est fabriqué sur mesure et en France, je suis sûre du résultat et de la qualité de pose. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde.
La maison du store, Storiste de France, c'est deux adresses. Chemin du Puy-Vineux à Rochefort, après le rond-point de l'avion, direction La Rochelle, et 92, avenue de Bel Air à Saint-Pierre-d'Oléron.
Storiste de France. Fenêtres, stores, volets.
Conditions sur storistedefrance.com.
C'est le week-end Demoiselle.
Bienvenue, bon week-end sur Demoiselle, suite de votre émission Parole d'animaux.
Eh bien, de retour dans Parole d'animaux pour la news info. Alors, nous retrouvons notre moment info sur les animaux et la biodiversité en cette rentrée. Quelques petites choses se sont passées durant l'été, parfois des drames malheureusement, puis d'autres qui peuvent égayer nos journées. Je vais commencer par les nouvelles les moins bonnes et finirai par une note positive, en tout cas j'essaierai. En réalité, j'ouvre directement l'info sur un drame pour ceux qui défendent avec conviction le vivant. C'est l'histoire, oui, de la vie, mais surtout de Smoke, un berger hollandais. Je cite les dires du collectif qui s'est créé pour sauver Smoke. Nous parlons ici d'un assassinat moral, mettre fin à la vie d'un chien en bonne santé alors que des alternatives existaient. Je vais vous expliquer brièvement l'histoire de Smoke afin que vous compreniez la situation. Smoke est un berger hollandais de 4 ans qui provient d'un élevage de lignée de chiens de travail. Il a été confié à une famille qui n'avait pas les connaissances nécessaires pour combler les besoins d'une telle race, je le rappelle, de lignée de travail. Étant le moins fort dans la fratrie, Smoke a développé de la protection de ressources pour survivre au sein d'une meute même de chiots. Il a été pensé, côté humain, qu'une famille ordinaire pourrait en faire un chien de famille tout simplement du fait qu'il était pressenti plus fragile. Erreur, dépassé par ses problèmes de protection et d'hyperactivité non gérée, Smoke a été abandonné une première fois, puis une deuxième. En 2023, Smoke est retrouvé attaché à un poteau dans un aéroport. Les chiens de lignée de travail ne sont pas à mettre dans n'importe quelle famille humaine. Berger malinois, berger allemand, berger hollandais, border collie ont pour ces lignées des prédispositions qui ont été sélectionnées depuis des générations. Se retrouver dans une famille ordinaire avec des sorties pipi-caca de 30 minutes et des journées dans un jardin ne correspondent pas forcément à leur profil. D'abord, un chien, c'est une responsabilité de tous les jours et qu'il faut assumer. Et puis prendre un beau chien sportif bien sculpté et qui attire les regards ne correspond pas forcément à votre propre mode de vie à vous. Sa grande intelligence peut même parfois dépasser notre compréhension et notre tolérance. Smoke est resté 2 ans en refuge où il a été très bien géré par les bénévoles qui ont su s'en occuper en le comprenant et en s'adaptant à lui, a engendré finalement un débat autour de l'euthanasie aujourd'hui en refuge. Parfois, il y a des êtres, des situations, des événements qui apportent un nouveau souffle de pensée. Smoke en est la preuve. Alors certes, ce sont bien des humains derrière tout ça qui parlent à d'autres humains et nous ne sommes pas des dieux qui décident de ce que la vie doit devenir. Nous sommes des êtres vivants parmi un ensemble d'êtres vivants. Mais il est un peu vrai, je crois, que nous apprenons ce qu'est le vivant en réalité et ce depuis que nous existons sur cette terre. Un homo sapiens qui apprend à vivre parmi les autres espèces et ce depuis toujours. Telle est l'évolution que décrirait Darwin, peut-être une adaptation à l'environnement d'un animal, voire pour les mammifères que nous sommes, aux énergies du moment sans doute. Bref, passons. Nous consacrerons une prochaine émission au sujet de l'euthanasie, je vous l'assure. Mais surtout, ce qui nous intéresse à ce jour, c'est pourquoi Smoke déclenche-t-il tant de révoltes chez les associations de protection animale. Nous y revenons. Eh bien, c'est un accident qui s'est produit. Smoke mord un bénévole et Smoke par l'euthanasie. Voilà en somme ce que décide un être humain en haut de la pyramide de la SPA. Parce que oui, ça s'est passé au sein de cette structure qui existe depuis 1845, la première association de France qui défend les droits des animaux de compagnie. Celle qui ne doit pas déroger à la règle de protection animale avec un P majuscule se voit au milieu d'une affaire d'euthanasie de convenance. L'affaire n'est cependant pas claire. Le bénévole n'est peut-être pas si innocent que ça, mais une enquête est en cours. Alors laissons faire les spécialistes. En fait, ce qui a été le plus révoltant, et ce qui peut se comprendre dans cette histoire, ce sont des solutions qui ont été proposées par d'autres associations comme Extrême Sauvetage ou AVA, et bien d'autres moins médiatisées peut-être, qui ont vu leurs propositions de prise en charge refusées. Le président de la SPA n'en démord pas malgré toute cette mobilisation et pétition. Smoke doit être euthanasié, point. Par peur, par évaluation humaine non fondée sur le vivant, qui sait, par ego même, et quelles sont les limites de la maltraitance animale, toujours est-il que Smoke n'est plus de ce monde depuis ce 19 août. Et ceux qui défendront sa mort vous diront avec assurance que celle-ci est justifiée. Vous reconnaissez peut-être, vous qui m'écoutez, vous dites que vous aimez les animaux, puis vient l'histoire de la morsure. Et si vos enfants se faisaient mordre, non ? Et le pourquoi du comment s'efface dans votre raisonnement, soudainement. Nous viendrait-il pas à la question du pourquoi a-t-il mordu ? Pour vous, il a mordu, il remordra, non ? Tel est l'être humain, toujours à juger ce qu'autrui fait, qu'on soit primate ou autre espèce, un tel ou un tel méritera tel sort, parce que c'est comme ça et pas autrement dans un cerveau programmé par la nature pour survivre. Mais ceci est un autre débat. Les réseaux sociaux sont forts pour ça d'ailleurs, un vrai tribunal d'incultes parfois. Un sujet sur lequel donc je ne m'étendrai pas aujourd'hui, moi qui suis loin de cette affaire, loin de ce drame. Mais un sujet qui fait réfléchir à ce que le vivant représente à nos yeux, réellement, encore à notre époque. Une loi qui n'est pas toujours bien assimilée d'ailleurs, et je parle notamment de l'article 515-14 du Code civil qui mentionne que les animaux sont des êtres doués de sensibilité, mais certains joueront sur le fait que les animaux sont aussi soumis au régime des biens. Un statut qui engendre discussion sur leur existence ou plutôt subsistance. Donc l'animal n'est pas si respecté pour le vivant qu'il représente, il ne faut pas se leurrer. Enfin, l'histoire de Smoke ne s'arrêtera pas là puisque des recours sont d'actualité et un procès est en cours d'écriture. Alors, affaire à suivre. Puis, je vais vous parler d'une affaire plus locale maintenant, une affaire de chat assassiné. C'est dans une commune paisible proche de Rochefort qu'a eu lieu une tuerie à arme à feu sur un chat domestique, parmi sans doute d'autres, et je précise, un chat non errant, puisqu'appartenant à une humaine, donc identifiée, et un chat n'étant aucunement en divagation, puisque se baladant proche de son domicile. Donc, un chat ordinaire qu'on laisse se balader en toute liberté. Agnès revenait de vacances et voit soudainement son chat, prostré à proximité de sa voiture, ensanglanté. Pas de temps à perdre, Agnès l'emmène chez le vétérinaire. Le verdict tombe, un voisin a tiré sur son chat. Elle décide donc de porter plainte à la gendarmerie qui lui assure qu'une enquête de voisinage va être faite. Porter plainte permet de signaler une infraction. Même si aucun responsable n'est encore désigné, une plainte sera enregistrée et renforcera une enquête si d'autres plaintes sont également déposées. Non, ce n'est pas inutile. Si vous êtes confronté à un tel drame, allez porter plainte à la gendarmerie de votre secteur. De plus, Agnès remarque alors que d'autres affiches sont postées dans le quartier depuis quelque temps, car d'autres chats disparaissent, dont son autre chat à elle, qu'elle n'a jamais revu. Empoisonné, tué, bien des questions se posent. Agnès recontacte la gendarmerie, l'enquête ne donne rien et pourtant elle entend bien des coups de fusil à proximité de son domicile régulièrement encore aujourd'hui. Quelqu'un qui s'amuse ou est-ce simplement de la chasse en plein été ? Beaucoup de questions naissent quand on est inquiet, comme un sentiment d'insécurité qui subsiste. Tuer un chat n'est pas anodin, un animal domestique qu'on supprime juste comme ça pour le loisir. Je tiens à rappeler que la loi punit les actes de cruauté et de sévices graves envers un animal domestique par l'article 521-1 du Code pénal. Puis un autre article mentionne quant à lui les atteintes volontaires à la vie d'un animal domestique qui sont aussi punies par la loi. Je cite l'article 522-1 du Code pénal. Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, hors du cadre d'activité légale, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. Donc, avis aux tueurs de chats et autres animaux domestiques. Cependant, Agnès regrette que le maire de sa commune n'ait pas fait un rappel de la loi sur les réseaux sociaux et autres moyens de communication afin d'informer ceux qui s'amusent encore à tirer sur les chats. Son chat décédé à ce jour, suite à des graves blessures engendrées par une balle, faisait partie de sa famille. Aujourd'hui, elle n'aura plus l'occasion de le câliner, ni de lui faire des bisous, ni de lui souhaiter une bonne journée. Le maire a pour mission d'informer ses administrés des lois qui existent. Il est donc important de transmettre de telles informations via les moyens de communication que nous avons aujourd'hui, n'est-ce pas ? Allez, on change de thématique. Voilà un sujet maintenant qui va sans doute vous intéresser, monsieur Després, car on va parler de pergisol et d'espèces retrouvées intactes dans l'état gelé de Sibérie. On va parler d'un individu de plus de 45 000 ans. C'est un oiseau, l'alouette Oskol. Alors d'abord, pourquoi je me suis penchée sur son cas ? Eh bien, pour ceux qui me connaissent, je suis aussi passionnée par les oiseaux. J'ai donc farfouillé dans mes archives et j'ai pu retrouver un article qui date de janvier 2025, donc tout récent, qui mentionne que les alouettes Oskol avaient été vues en Charente-Maritime sur l'île Madame. Souvenez-vous. Alors, sachez que c'est une espèce qu'on rencontre parfois au nord de la France, sorte de migration. Ainsi, il est très rare d'en trouver dans notre département et bon nombre d'ornithologues s'étaient déplacés pour les observer discrètement sur notre chère côte maritime en ce début d'année afin qu'ils, comme ils disent, de cocher, c'est-à-dire d'observer une espèce rare ici chez nous. Et puis j'ai cherché des infos sur elle. Ainsi m'est venue la question du pourquoi l'avons-nous trouvée ici, dans notre département. Habituellement, on la trouve dans les régions montagneuses et les pierriers d'altitude très, très souvent au nord de l'Europe ou à l'est, ainsi que dans les terres froides de Sibérie, entre autres comme la toundra. Alors, l'observer en hiver sur l'île Madame, cela émoustille la curiosité de plus d'un d'entre nous. Cette observation n'a pas vraiment trouvé d'explication en réalité. Il est supposé des individus peut-être égarés lors de la migration. Puis, je m'intéresse de plus près à cette espèce. Et là, surprise, je vois un article qui date de 2020 où une alouette Oskol a été découverte par les scientifiques dans le pergisol en Sibérie. Alors, vous savez, le pergisol, c'est selon sa définition, le sous-sol gelé en permanence et de ce fait imperméable, situé dans les régions alpines, arctiques et antarctiques. Grâce à la datation au carbone 14, son âge aurait été évalué à plus de 45 000 ans. Un état de conservation exceptionnel qui a permis de retrouver un spécimen intact. Cela a permis de recouper avec la période durant laquelle elle aurait vécu et qui est le Pléistocène. Par l'étude de l'ADN, il a été conclu que cette alouette Oskol serait l'ancêtre de deux sous-espèces actuelles qui auraient évolué différemment selon les régions, Sibérie et Mongolie, et par adaptation à l'environnement. D'autres études sont en cours afin de connaître l'écosystème local dans lequel elle aurait vécu, et ce grâce au génome qu'elle porte. L'alouette Oskol est une espèce très ancienne, et le pergisol permet aussi de connaître l'évolution des espèces à travers le temps. Avec le réchauffement climatique, beaucoup d'espèces très anciennes sont découvertes à la surface de la Terre, et nous n'en sommes qu'au début de la compréhension de notre monde. Alors, nous verrons ce que notre planète nous laisse découvrir encore. Et nous revenons juste après la pub avec notre invité Éric Després.
C'est la rentrée. Profitez de ce moment pour prendre soin de vous au Centre Technico-Esthétique AKA Crystal à Rochefort. Découvrez nos solutions sur mesure pour une peau libérée et une silhouette affinée. Pour célébrer la rentrée, bénéficiez de 15% de réduction sur nos forfaits épilation laser et amincissement par le froid. N'attendez plus, réservez votre consultation personnalisée au 05 79 97 92 33 ou sur crystalrochefort.com. Offre valable du 1er au 30 septembre 2025 sur les forfait laser et cryolipolyse. AKA Crystal, ouvert du mardi au samedi, 18 rue Amiral Amédée Courbet à Rochefort. AKA Crystal, révélez votre beauté.
Bonjour, c'est Christophe de l'hôtel-restaurant Le Cristal à Saint-Georges-de-Didonne. Après 20 ans au Grand Chalet de Ronces-les-Bains et la création du Cristal avec Alexandra, je passe maintenant le relais à Alizée et Coralie qui prennent la relève du restaurant.
Dès maintenant, nous vous accueillons au restaurant Le Cristal, place Michelet à Saint-Georges-de-Didonne du mercredi au dimanche, midi et soir. Notre cuisine reste maison et locale avec des produits frais du marché. Alors réservez au 05 46 39 58 82. Plus d'infos sur lutcristal-lgdd.fr.
Chez Atoll Rochefort, offrez-vous du style et de la qualité. Profitez dès maintenant de moins 50% sur la deuxième paire de marques. Faites-vous plaisir et sans vous priver. Rendez-vous vite chez Atoll, galerie marchande Intermarché à Rochefort.
Atoll, bien voir, bien être.
Simone a 94 ans. Elle est en bonne santé, mais il y a des choses qu'elle ne peut plus faire. Sa fille Aude passe chez elle tous les soirs après le travail pour lui faire ses courses et vérifier que tout va bien. Un jour, elle décide enfin d'appeler Petit-Fils. Grâce à Petit-Fils,
Une auxiliaire de vie professionnelle vient chaque jour chez Simone lui préparer son dîner et passer la nuit avec elle.
Petit-fils, l'aide à domicile sur mesure pour les personnes âgées. Petit au pluriel, -fils.com.
Votre agence de Rochefort, 14 rue Cochon du Vivier.
Il se passe toujours quelque chose au Casino Partouche de la Tremblade Ronce-les-Bains.
En septembre, les mercredis en folie débarquent dans votre casino. 25% de bonus vous sont offerts jusqu'à 50 euros d'achat. Oui, 25% de crédit jeu offerts tous les mercredis. Alors, ça se tente ?
Casino Partouche de la Tremblade Ronce-les-Bains, 46 avenue de la Chaumière.
Partouche ! Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurinfoservice.fr. 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
Il y a du plus sur le réseau Airbus. Il y a une ligne estivale en plus.
Du 1er juin au 30 septembre, les dimanches et jours fériés, embarquez sur la ligne J pour vos escapades ensoleillées.
De Tonnet-Charente à l'île d'Aix en passant par Rochefort, Saint-Laurent-de-la-Pré ou encore Fouras-les-Bains.
Envie d'une balade en bord de mer ou de la Charente? D'une visite de musée, d'un rafraîchissement, d'une bonne glace ou d'un petit bain de soleil? Airbus vous y emmène.
Retrouvez toutes les infos sur airbus-transport.com ou au 05 46 99 22 66.
Airbus, plus proche de vous.
Airbus, le réseau de transport de la communauté d'agglomération Rochefort-Océan.
Demoiselle à Lucent sur 97.8.
Encore un quart d'heure d'émission, ça passe très très vite. Hein.
Là, là, c'est sûr. Mais c'est intéressant.
C'est pour intéressant, ça c'est pour ça.
Donc toujours dans Paroles d'animaux et toujours avec Éric Després, amateur paléontologue. Éric, est-ce que vous pouvez nous parler des découvertes un peu particulières que vous avez faites, notamment, je pense, aux feuilles souples.
Oui. Ah, les feuilles souples. Alors ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Les feuilles souples qu'on a trouvées il y a 100 millions d'années, qui ont 100 millions d'années, qu'on a trouvées en Charente-Maritime. Alors, il faut savoir qu'il y a très, très peu de gisements au monde où on trouve des feuilles souples, parce que le fossile d'une feuille, c'est dans la pierre. Hein. C'est de la pierre, de la roche. Donc, notre feuille fossile, elle est en pierre. Tandis que là, elle est souple. On la prend comme une feuille qu'on va cueillir dans un arbre. Donc, la petite explication, moi, si je n'avais pas trouvé ça pour la première fois, je n'aurais jamais cru. Hein. Et donc, ces feuilles-là, en fait, les choses se compliquent parce qu'en fait, c'est des fantômes de feuilles. Et pourtant, on les a dans les mains. On a des fantômes de feuilles dans les mains qu'on découvre. Et donc, la petite explication, c'est qu'en fait, si on prend une feuille actuelle, qu'on cueille dans un arbre, la partie supérieure de notre feuille est constituée de molécules hydrophobes et amphipathique, une partie cireuse, qui permet à la feuille de se protéger des rayons ultraviolets et qui permet aussi à l'eau de glisser sur la feuille pour éviter qu'elle ne stagne et produise des mycoses. Et bien notre feuille, quand elle est tombée dans l'eau il y a 100 millions d'années et fut recouverte par les sédiments qui peuvent atteindre jusqu'à 30 mètres d'épaisseur dans notre région, 30 mètres d'épaisseur d'argile ou de pierre, et bien nous avons la pression, compression des argiles ou de la pierre sur nos feuilles fossiles qui ont fait que nous avons la partie cireuse, la partie morphologique de notre feuille qui s'est imprimée dans la partie cireuse.
D'accord.
Notre feuille s'est détruite avec le temps. Il va nous rester cette partie cireuse un peu comme un polymère où on va avoir en impression seulement les moindres détails de notre feuille. On va voir les stomates, système respiratoire des feuilles, les cellules marginales, les cellules périphériques. Mais là où on va voir qu'il y a un fantôme de feuille, c'est qu'en fait, nous n'avons pas de noyau dans les cellules. Ce sont des fantômes.
C'est ce qui indique que ce n'est pas véritablement donc les cellules de feuilles,
mais elles restent souples. Okay. Alors, je vous avoue franchement, le côté un petit peu peut-être cinglé du chercheur de fossiles, j'ai goûté ce nez de 100 millions d'années et je vais être direct, c'est dégueulasse.
Bah forcément.
C'est pas bon du tout, ça a le goût de sulfure, de soufre, tout ça, mais bon, voilà, on n'a pas abusé. Mais j'ai goûté une feuille de 100 millions
maintenant
d'années.
Maintenant vous savez quoi.
Voilà.
Et comment est-ce que vous pouvez les conserver du coup ces feuilles? Ça ne doit pas être si facile.
Donc on les conserve, elles sont donc fossilisées, hein, mais souples, et donc on les conserve entre deux plaques de verre.
D'accord.
Elle ne bouge pas du tout.
Okay. Hein,
voilà. C'est assez exceptionnel.
Et pour revenir sur les plumes, du coup, celles que vous avez découvertes, j'imagine qu'elles n'ont pas le même aspect que les plumes de nos oiseaux actuellement.
Non, mais bien sûr, les oiseaux descendent des dinosaures. Hein, mm-hmm. Et en fait, cette plume-là est très particulière. Hein. Cette plume a un rachis, donc un tube central, et les petites barbules qui sont de chaque côté ne se touchent pas, dont ce dinosaure théropode tridactyle ne volait pas. Hein. Donc ça servait peut-être pour le côté nuptial ou peut-être le côté pour se réchauffer. Mm. Hein. Mais en fait, c'est une plume primitive.
En fait, on ne sait pas aujourd'hui vraiment à quoi elles servaient, ces plumes primitives.
Bah, on est encore dans les balbutiements.
Voilà. Voilà. D'accord, mais on découvrira certainement un jour, peut-être.
Oui, je pense avec la science, oui. Les choses évoluent. Oh, ouais, mais voilà, les plumes de dinosaures, on sait qu'aujourd'hui, les oiseaux descendent des dinosaures, mais on avait la réponse dans nos basses-cours depuis plus de centaines d'années. Oui. Hein. Oui. Si vous regardez, vous avez toute l'évolution de la plume sur une patte de poulet. Hein, ou de poule. Si vous regardez la patte d'une poule, en fait, ça commence par des écailles, hein, comme on voit chez les dinosaures théropodes, comme les T-Rex. Hein. Mm. Et donc, en fait, si on remonte la patte de la poule, on voit les écailles, et à un moment donné, on va avoir une dissociation des écailles qui vont donner les barbules, qui vont donner les plumes. Et on a toute l'évolution de la plume, et si on remonte petit à petit sur la patte de la poule, oui. On va carrément voir la plume. Donc on a toute l'évolution de la plume sur une poule.
Ouais. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte, on n'imagine pas que les écailles qu'on voit sur les pattes deviennent en fait finalement des plumes.
Ouais, c'est la dissociation des écailles qui vont donner les plumes.
Mmh. C'est marrant ça, très bien. Non mais c'est bon à savoir.
Est-ce que vous pouvez nous raconter comment se passe une journée type de fouille pour vous?
Alors, une journée type plutôt de prospection, parce que la fouille, c'est vraiment le côté final. Mais en fait, je commence par étudier mes états géologiques, hein, en fonction dans le secteur où je vais aller chercher, si c'est plutôt à côté terrestre ou aquatique. Et donc, j'étudie mes états géologiques. Après, le sac à dos, le casse-croûte, le marteau, le burin. Et on part comme ça dans la nature, se balader à la recherche de fossiles. Donc on cherche ces fossiles directeurs, hein, ce qui est typique d'un étage géologique courant, hein, genre petit bivalve, petite térébratule, choses comme ça, c'est dans un monde marin. Et à partir de là, on va se dire, qu'est-ce qu'il y a ici que je ne vois pas? Et donc là, c'est là qu'on commence à essayer de trouver des choses complètement différentes. Quoi.
Mais vous avez une bonne intuition, parce que vous avez quand même trouvé parfois même des os de dinosaures, mais parce que vous saviez qu'il y avait quelque chose, même sous le calcaire que vous nous racontiez. Vous dites en vous-même, non, ça, là, il y a quelque chose qui se cache.
Ouais, une petite anecdote, par exemple, dans le pays Rocheforté, on a des restes de dinosaures, bien sûr. Et quand on regarde le pays Rocheforté, c'est tout plat. C'est tout plat. Donc, trouver des restes de dinosaures, c'est compliqué dans un milieu qui est assez plat. Donc, il m'est arrivé, quelquefois, d'être dans un endroit, j'avais étudié mes couches géologiques et je me dis, ici, devrait y avoir du dinosaure, mais je ne les vois pas. Oui. Alors, ça m'est arrivé de me mettre en tailleur, assis en plein milieu d'un champ qui fait 30 ou 40 hectares, et de me dire, est-ce qu'il y a ici quelque chose que je ne vois pas ? Et là, on pourrait se croire dans la méditation, hein, mais non, pas du tout. On est dans l'observation, l'imagination, tout se mélange un petit peu, s'entrecroise. Et à un moment donné, je tourne la tête et je me dis « Ah, ils sont là-bas !» Et là, on va retrouver un niveau légèrement plus haut, hein, une petite butte qui fait à peine 15-20 cm avec une couleur de terrain un petit peu particulière. Mmh. Et là, je vais aller là et bingo, on va trouver des restes de dinosaures. Il m'est arrivé de trouver des restes de gros sauropodes, hein, d'une quinzaine de mètres de longueur, grosses vertèbres, mais ce sont des animaux disloqués parce que nous sommes en bordure de mer et notre secteur a été très très chahuté par la mer pendant des millions d'années. Quand même.
Oui. Et comment reconnaît-on un os de dinosaure? Parce que moi, je passe dans un champ, je vois une pierre. Enfin, comment on le reconnaît?
Alors d'abord, les os de dinosaures en Charente-Maritime, c'est très rare.
Oui, j'imagine.
Et là aussi, la nature joue avec nos sens. Hein. Il faut les trouver. Ils peuvent être encroutés dans du calcaire. Donc à un moment donné, il faut apprendre à reconnaître un os de dinosaure. Donc il faut aller soit dans un musée et demander l'autorisation de voir comment est la constitution d'un os de dinosaure. Donc, une fois que vous avez regardé avec une loupe une section d'os de dinosaure, que vous alliez n'importe où dans le monde, vous allez trouver toujours la même structure. Ça va être la couleur qui va changer. Hein,
ah oui,
mais
d'accord.
Vous pouvez avoir des os rouges, noirs, verts, jaunes, hein, gris, blancs. Donc, mais la structure reste toujours la même.
Et pourquoi cette couleur change d'ailleurs?
C'est en fonction des minéraux qu'il y a. La la matière organique se transforme en matière minérale avec les millions d'années. Et si par exemple vous avez des os rouges, c'est qu'en fait vous avez des oxydes. Gris, ça va être des manganèses, et ainsi de suite.
Donc c'est vraiment la constitution qui va permettre de déterminer si c'est
un os.
Pas la couleur.
La couleur, mais ce qu'il y a surtout, c'est la constitution de ces parties un petit peu comme vous regardez la section d'un os avec toutes ces petites aspérités qui sont remplies de calcite ou de quartz ou de calcédoine. Et une fois que vous avez interprété ça dans votre cerveau, vous allez n'importe où dans le monde, vous allez trouver les os, ils sont la constitution d'un os de dinosaure est identique. Par contre, après, où il y a un très très gros travail à faire, c'est l'identification, c'est le travail de spécialiste, de paléontologue qui travaille sur les dinosaures, savoir si c'est un carnivore, un sauropode ou c'est assez complexe, ou un crocodilien ou des choses comme ça. Là après, ça reste très très, très compliqué.
D'accord. Est-ce qu'il vous arrive de laisser sur place certaines découvertes?
Oui, c'est déjà arrivé. Quand on ne peut pas sortir, il m'est arrivé de voir dans des chantiers des gros nautiles, par exemple. Un nautile, c'est un céphalopode. M'est arrivé de trouver un jour un nautile qui faisait 110, 120 kilos, un truc qui fait presque un mètre de diamètre. Donc là, on peut pas les transporter. Et quand vous arrivez le lendemain, c'est détruit par les engins, parce que les engins, les gens... Les carriers travaillent des fois de bonne heure, ils embauchent à 5-6 heures du matin, donc c'est trop tard.
Et ça arrive de temps en temps. J'imagine qu'il y a des endroits aussi qui peuvent être dangereux, du coup pas forcément accessibles.
Ah oui, il faut faire très 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 attention, il ne faut pas s'embarquer comme ça, chercher des fossiles. D'abord, il faut aujourd'hui des autorisations pour aller dans les carrières, ce qui est très difficile à se procurer.
Ah oui, bien sûr. Comme
et il faut faire très attention, comme je disais tout à l'heure, la nature n'a pas de morale, elle n'est pas immorale, elle est amorale. Donc vous pouvez très bien trouver des super fossiles qui sont à 2,50 m de votre main, et vous dites je vais chercher une échelle, je vais aller chercher, et là c'est la mort fatale, quoi. Vous pouvez avoir des dizaines de tonnes de pierres qui vous tombent dessus, et là vous êtes enseveli. Donc il faut faire très attention, il ne faut pas plaisanter avec la nature, notamment avec les rochers et les rochers.
Pourtant ça doit être tentant d'aller voir, mais non, il faut être raisonnable.
Il faut être raisonnable, c'est comme les marins. Quand il y a des grandes tempêtes, ils ne sortent pas en mer.
Oui, c'est vrai.
Oui, exactement. Donc, un conseil à donner aux novices, ceux qui voudraient se lancer, des jeunes qui voudraient se lancer dans la paléontologie, par exemple, à la recherche des os, etc. Ne vous aventurez pas, en fait, dans des endroits dangereux. Si vous estimez que vous risquez votre vie, n'y allez pas. Ne faites pas...
Il faut faire très attention.
Voilà. Est-ce que, justement, pour des personnes qui souhaitent se lancer, il y a des clubs qui existent dans le coin?
Bien sûr, vous avez des clubs de minéraux et fossiles dans la région. Vous avez Surgères, la Société des sciences naturelles humaines de Surgères. Vous avez La Rochelle aussi, il y a un club. Donc les gens peuvent s'inscrire, et comme ça, ils peuvent aller chercher avec les responsables de ces clubs-là en toute sécurité.
Sur le terrain.
Dans des endroits. Moi, je préconise ce genre de
club pour commencer.
Pour commencer, pour toutes les personnes qui veulent se lancer en minéralogie ou en paléontologie. C'est un bon apprentissage.
Et puis c'est du travail d'apprentissage, il faut connaître quand même ces époques. Et puis voilà, sinon c'est de la connaissance.
Il faut les autorisations aussi pour aller fouiller.
Les autorisations, en principe, c'est les clubs qui les procurent. Ça permet aux gens de sortir.
D'accord. Surtout qu'il y a beaucoup de choses certainement en Charente-Maritime à découvrir, je pense, dans différents... Parce que c'est vrai que notre terre en Charente-Maritime, c'est soit calcaire ou, je ne sais pas, argileux ou... ou siliceux. Donc ça varie, il y a beaucoup de variations dans la composition de la terre. Enfin, je ne sais pas comment on peut dire, mais il y a beaucoup de choses à découvrir, je pense.
Bien sûr, il y a encore beaucoup de choses à découvrir pour les générations futures.
Pour encourager les jeunes à se lancer dans ce domaine.
Voilà.
Très bien.
Merci beaucoup Eric pour ce voyage fascinant dans les profondeurs du temps. Si on souhaite discuter avec vous de paléontologie, est-ce qu'on peut vous contacter par quelconque moyen ?
Alors oui, on peut me contacter par le biais d'Internet, mais ce qu'il y a, il y a aussi de nombreuses conférences que je donne à droite à gauche. Donc c'est l'occasion de se retrouver.
Effectivement.
De discuter. Et voilà.
Il y en a une prochaine, par exemple.
La prochaine, il y en a qui peuvent se mettre entre les deux, mais la prochaine va être au château de Beautour, en Vendée, en 2026, en avril. Il n'y en a pas entre les deux pour l'instant.
D'accord.
Mais au jardin potager du roi, où je vais faire une intervention sur l'insondable mystère de l'origine des plantes à fleurs.
D'accord. C'est intéressant.
Ok. Ouais, fascinant. Ah ouais,
très bien.
Eh bien, merci à tous. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. On se retrouve le 20 septembre pour notre prochaine émission. À très vite sur Demoiselle FM.